Et on se retrouve pour la quatrième chronique autour de l'histoire des associations en Mayenne avec vous, Christophe Tropeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de musique associative et en particulier de l'influence du répertoire de cette musique associative sur la musique dite traditionnelle. Alors, pour commencer, à quelle époque les sociétés musicales se développent-elles dans les campagnes mayennaises ?
Alors le grand moment des sociétés musicales, en Mayenne en particulier, et en France en général, ce sont les premières décennies de la Troisième République, c'est-à-dire en gros les années qui vont de 1880 à 1900. Et donc l'essor de la musique associative est effectivement très lié au régime républicain qui l'encourage par des subventions qui vont lui être attribuées pour l'achat d'instruments et de partitions. Et donc pour la République, les sociétés musicales sont un moyen de mettre en avant des valeurs, une pratique collective avec une écoute collective, une nécessaire harmonie entre les musiciens, mais c'est aussi un moyen de faire entendre des airs républicains, au premier rang desquels la Marseillaise, qui est devenue l'hymne national en 1879.
Mmh. Et donc ces premières sociétés musicales, à quoi ressemblent-elles ? Quel instrument est-ce qu'on y joue ? Et c'est combien de membres ?
Alors, le mois dernier, nous avons parlé du rôle important des corps de sapeurs-pompiers dans l'essor associatif rural. Beaucoup de sociétés musicales sont nées en Mayenne au sein des sapeurs-pompiers. On a donc affaire en majorité à des fanfares, c'est-à-dire à des formations uniquement composées de cuivre, qui jouent d'abord de la musique militaire. Les harmonies, qui accueillent également des bois, sont relativement peu nombreuses. Quant aux sociétés philharmoniques, qui mêlent à la fois instrumentistes et choristes, et aux chorales, elles sont très rares en Mayenne. Quant à leur effectif, les sociétés rurales musicales comptent en moyenne 25 membres actifs. Les plus petites, comme la fanfare de Juvigné en 1887, tournent autour d'une quinzaine de musiciens. Les plus importantes, comme la musique du cercle Saint-Joseph d'Evron vers 1900, peuvent dépasser la cinquantaine de membres.
D'accord. Et en quoi justement la création de ces sociétés musicales dans les années 1880-1890 révolutionne-t-elle en fait la musique en Mayenne ?
Bien, tout d'abord, elles apportent de nouvelles habitudes. La plupart proposent des représentations régulières dans leur commune d'origine et alentour. Et elles se développent en même temps que la presse papier locale qui annonce toutes les semaines les lieux, les horaires et les programmes des représentations. Et certaines communes rurales comme Cran, par exemple, se dotent même d'un kiosque pour les représentations. Et cette représentation, elle dure en général une heure et suit un programme que l'on retrouve partout en France. D'abord une marche militaire, puis des œuvres de divertissement très variées comme des valses. Et puis, on conclut par un hymne qui est le plus souvent la Marseillaise. Et donc, les années 1880-1890 voient se développer un nombre important de compositeurs spécialisés dans la musique de fanfare. Et les chefs d'orchestre locaux n'ont que l'embarras du choix.
Et dans ces compositeurs, du coup, est-ce qu'il existe des compositeurs mayennais ?
Eh bien, tout à fait. En 1891, par exemple, l'Union musicale d'Evron a à son répertoire une polka intitulée « L'Evronaise », due à un certain monsieur Guétron, que je n'ai pas retrouvé par ailleurs. Et à la même époque, les fanfares du sud du département jouent « Rosita », une marche espagnole, et « Le Castro-Gontérien », une marche d'inspiration militaire. Deux œuvres composées par un compositeur local connu, qui est également chef de musique à Château-Gontier et à Louis-Julien de Schaeper.
D'accord. Et comment justement la musique dite traditionnelle, voilà justement des campagnes mayennaises, fait-elle face à toutes ces nouveautés musicales ?
Alors, on peut avoir l'image d'une musique traditionnelle, celle du joueur de violon, ce qu'on appelle le violonneux, qui anime les veillées, totalement balayé par la musique associative. Eh bien, en fait, pas du tout. D'ailleurs, les historiens préfèrent parler de coutume plutôt que de tradition, car la coutume, elle s'adapte, elle se renouvelle, alors que la tradition, elle se fige. Et les musiciens coutumiers, les violonneux, puis au début du XXe, les accordéonneux, ceux qui jouent de l'accordéon, viennent écouter les représentations des fanfares pendant les représentations publiques, et à l'oreille, reproduisent chez eux les airs entendus. Et en gros, la musique associative permet donc de renouveler le répertoire de la musique coutumière.
Alors, est-ce qu'on peut parler du coup d'une concurrence entre les musiciens associatifs et les musiciens hors association ?
Ben, je ne pense pas, parce qu'en fait, j'ai trouvé un très bel exemple que j'ai pu trouver, c'est à Saint-Denis de Gâtine, lors de la grande fête du dimanche 30 juillet 1905. La fanfare du village joue dans un square jusqu'à 1h du matin. Elle anime ici un bal. Puis, la fête continue jusqu'au petit jour dans les cafés du village, au son de l'accordéon, de la flûte et du violon. Et donc, on a une musique associative et musique coutumière qui sont complémentaires, qui jouent à deux endroits différents, en deux moments différents, sans doute les mêmes airs. Hein. Et donc, la première, la musique associative, ne fait pas disparaître l'autre. Bien au contraire, elle l'enrichit. Ce qui va faire, en fait, disparaître les deux sortes de musique, tout du moins les rendre moins présentes dans les campagnes, ce sont à partir des années 1920, les pianos mécaniques installés dans les cafés. Et entre-temps, la musique associative, elle a participé avec les corps de sapeurs-pompiers, avec les sociétés conscriptives et les clubs de sport à ouvrir le village sur l'extérieur, grâce aux concours et grâce aux compétitions. Mais cela, je vous en parle le mois prochain.
Merci beaucoup, Christophe.
Au revoir.